Merci d'être avec nous, Geneviève Blanchard, aujourd'hui. Je voulais parler avec vous d'agriculture biologique. Et donc, mais pour commencer, en lisant votre biographie en ligne, j'ai vu que vous aviez été athlète en course de vitesse jusqu'en 2012. Alors, parlez-nous de ça un petit peu.
Oui, effectivement. Donc, j'ai eu une certaine carrière d'athlète élite en sprint. Ça a pris beaucoup de mon temps et de mon énergie pendant environ 10 ans. Alors, je m'entraînais à tous les jours. Bon, ça prenait énormément de place dans ma vie. Jusqu'en 2012, j'ai arrêté en fait à cause d'une blessure. Présentement, je suis conseillère en gestion de patrimoine et je me spécialise en investissement socialement responsable. Donc, des stratégies de placement qui prennent en considération des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la gestion de portefeuille. Donc, c'est une façon que j'ai réussi à combiner ces deux intérêts, la finance et l'environnement. Et j'ai aussi créé en juin 2015 une entreprise agricole avec mon mari, une ferme, c'est-à-dire une ferme maraîchère biologique. Nous sommes la première ferme au Québec à cultiver et à offrir des légumes frais à nos membres, même l'hiver, donc vraiment 52 semaines par année.
Et est-ce que, pour revenir rapidement sur l'investissement responsable, est-ce que vous avez pu étudier ça à McGill ou bien vous avez suivi une formation avec un institut financier au Québec?
Non, c'est ça, c'est pas à l'Université McGill, ça a été vraiment une formation un peu plus sociale, vraiment plus académique là, au niveau des enjeux environnementaux et tout ça. Par la suite, c'est vraiment lorsque j'ai été sur le marché du travail que je suis allée moi-même chercher une expertise en investissement socialement responsable, que ce soit par l'entremise, entre autres, de l'Association canadienne d'investissement responsable, ou par mes propres recherches, mes propres lectures, etc.
Alors, sachant votre intérêt justement pour les sciences environnementales et la finance comportementale, ça me semblait logique que vous ayez créé cette ferme selon les principes de l'agriculture biologique. Mais bien sûr, la première question qui se pose, c'est comment partagez-vous votre temps entre le bureau et la ferme?
Ouais. Ben c'est sûr que y a pas beaucoup de week-ends. Mais mon mari en fait lui est à temps plein sur la ferme, donc c'est sûr que c'est lui qui est vraiment en charge des opérations, de la production, qui est vraiment le cultivateur si on veut. Alors que moi, ben je travaille plus au niveau de la gestion de la ferme avec lui, toute la question plus stratégique. Et puis, au niveau de la comptabilité, des finances, etc. Puis, ben, les week-ends, les soirs, c'est sûr que je mets mes bottes à tuyaux aussi, puis je vais l'aider dans le champ. Mais c'est sa responsabilité plutôt, là. Alors que moi, ben, de jour, évidemment, je passe mon temps au bureau. Mais c'est certain qu'étant un peu comme. J'ai une horaire très, très flexible au bureau, alors je suis capable de combiner les deux assez facilement. Quand j'ai besoin de passer du temps un peu pour la ferme, je suis capable de le faire aussi là, de jour. Là, donc,
Alors, parlez-nous justement de votre ferme maraîchère que vous avez appelée Holistique ou Holistique. Quelle était votre vision quand vous et votre époux l'avez lancée et puis quelle est votre vision pour l'avenir aussi?
Au départ, pardon, on voulait, en fait, notre mission qu'on avait en tête, on voulait vraiment rendre l'achat des légumes biologiques plus simple et attrayant pour les gens. Et pour monsieur, madame, tout le monde aussi. On visait vraiment une expérience agréable, plus de saveur, de façon à reconnecter les gens, leur nourriture, à la terre, à les gens qui la cultivent. Il y a un sentiment de communauté aussi qu'on voulait voir revenir. Et pour avoir un impact plus grand, on voulait que les légumes soient disponibles à l'année pour se rapprocher le plus possible de l'offre en épicerie. Mais en même temps, on voulait pas avoir à brûler une quantité énorme de combustible fossile. On voulait garder ça le plus propre possible. Et donc, on a créé un système de culture qui est adapté à notre climat et qui fonctionne avec de l'énergie locale et propre. Dans notre cas, c'est de la géothermie.
La biothermie?
Géothermie.
La géothermie.
Bon. Donc, on puise la chaleur du sol, en fait. Nous, c'est de la géothermie. Bon, normalement, on peut avoir du forage vraiment dans le sol. Par contre, dans notre cas, c'est de la géothermie en étang. Donc, les boucles géothermiques sont dans le fond d'un étang et on va chercher plutôt la chaleur de l'eau.
D'accord. Donc, est-ce que ça, c'était quelque chose dont vous, enfin, c'est une technologie dont vous aviez l'expérience déjà, ou votre époux, ou comment est-ce que vous en êtes arrivé à cette conclusion qu'il fallait justement gérer la ferme selon les principes de la géothermie?
Non, pas du tout. C'est pas une expérience qu'on avait. On connaissait, bon, au niveau des énergies renouvelables, on connaissait bien la géothermie. On a exploré aussi l'énergie solaire. Mais au final, suite à nos recherches, puis on s'est informé beaucoup, on a lu beaucoup sur le sujet. Et avec ce que nous, on voulait faire, la géothermie était beaucoup plus efficace. Donc, c'est pour cette raison qu'on est allé avec ce type de système de chauffage pour nos serres, là.
Est-ce qu'il existe, peut-être pour nos auditeurs que ça intéresserait, est-ce qu'il existe des programmes gouvernementaux au plan fédéral ou provincial d'ailleurs pour soutenir justement ces technologies propres, que ce soit en agriculture ou autre?
Oui, effectivement. On a Hydro-Québec. En fait, c'est ça. Évidemment, nous, on est situé au Québec, là. Hydro-Québec offre une subvention pour, si je me rappelle bien, la conversion ou en tout cas l'utilisation, du moins, là, je me souviens plus des critères exactement, là, d'une source d'énergie renouvelable, là, plus propre. Donc, il y a une subvention qui est liée, là, qui peut être accessible aux gens qui désirent utiliser soit la géothermie ou une autre source d'énergie renouvelable. Mm-hmm.
Alors justement, dans l'accès à des fruits et des légumes frais dans nos climats froids, c'est un vrai défi, surtout en hiver. Donc, parlez-nous de ces techniques culturales que vous utilisez et qui, selon ce que j'ai lu sur votre site, rehaussent les saveurs. Pouvez-vous nous en parler?
Oui, il y a trois aspects qui font que nos légumes sont plus goûteux que ce qu'on retrouve en épicerie, autant en été qu'en hiver. La première chose, c'est qu'on fait des cultures qui sont adaptées à la saison et au climat du Québec. Donc, on choisit, ça c'est le premier aspect. Le deuxième, on choisit aussi des variétés pour leur goût et non pour leur qualité ou leur capacité à se transporter sur de longues distances. Donc, parce que, étant donné que nous, on vend seulement localement, on n'a pas à choisir des variétés pour leur distance au transport ou ces choses-là. Donc, on va vraiment être capable d'aller choisir des variétés pour leur goût. Et puisqu'on est en culture biologique, ben, en fait, tous nos légumes proviennent d'une culture en plein sol et non en substrat, ce qui favorise les saveurs aussi. Donc, par exemple, si on pense à l'été, on va limiter notre saison de culture de tomates du 15 avril au 15 octobre parce que c'est vraiment la saison où il y a le plus de chaleur, où les tomates sont les meilleures. Ils bénéficient de cette chaleur-là. Alors qu'en hiver, on va y aller avec des variétés, des légumes qui bénéficient d'une croissance au froid. Donc, on peut prendre la carotte, par exemple, qui, elle, pour se protéger du froid, va transformer son amidon en sucre. Donc, ça fait une carotte beaucoup plus sucrée. On va avoir le kale va être plus tendre, la coriandre, elle, étant donné qu'il y a moins de lumière l'hiver, elle ne monte pas en graines, elle fait plus de feuilles, donc elle est plus belle. Le radis, lui, n'aime pas tellement la chaleur, donc le radis en hiver va être moins piquant parce qu'il croît dans le froid. C'est le genre de technique. Nous, c'est des serres qui sont pas extrêmement chauffées. C'est des serres froides qu'on appelle. On va même faire des cultures aussi en champ, non chauffées, juste des petits tunnels. Par exemple, les carottes, on les fait en champ tout l'hiver. Donc, c'est une culture automnale qu'on laisse en champ tout l'hiver et qu'on va récolter durant l'hiver en tout du tunnel.
Est-ce que vous vous étiez renseigné sur ces techniques par rapport à ce qui se faisait autrefois, j'imagine, dans la province, ou bien est-ce que votre époux a étudié justement l'agriculture biologique?
Non, tous deux, on ne provient pas du milieu agricole, pas du tout. On est très, très autodidacte, donc on a effectivement lu beaucoup sur le sujet. On est allé à la... On a décidé qu'on voulait partir ce genre de projet-là. On s'est informé sur tous les projets qui étaient déjà en cours. On a lu beaucoup sur les différentes techniques et on a pris un peu partout ce qui nous semblait les meilleures façons de faire. On a aussi voyagé, on a été au Népal en montagne faire du bénévolat sur une ferme biologique. On l'a fait aussi en Italie pour aller voir ce qui se fait ailleurs un peu.
Donc, vous en avez appris, j'imagine, les principes fondamentaux, mais finalement, on revient aussi au bon sens de cultiver ce qui correspond aux saisons naturelles.
Pardon, j'ai pas entendu.
Je disais que finalement, on en revient au bon sens de cultiver ce qui correspond aux saisons naturelles et non pas chercher à produire des choses complètement exotiques pour un milieu ou un climat qui ne correspondent pas.
Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est de vraiment choisir des légumes qui sont bien adaptés et qui bénéficient de chacune des saisons plutôt que de forcer des légumes qui n'aiment pas le froid à pousser en hiver, puis à utiliser beaucoup de chauffage plutôt pour les faire pousser. C'est vraiment de ne pas aller à l'encontre de la nature, mais plutôt de travailler avec les forces de la nature.
Alors, un aspect important, si j'ai bien compris, c'est que vous vendez localement, ce qui vous permet de réduire votre empreinte écologique en termes de transport. Depuis quand avez-vous lancé justement cette vente de produits locaux et comment ça se passe alors concrètement?
Alors, ça fait un an à peu près. On a commencé nos ventes au mois de novembre l'année passée, en 2015. Ça se passe très, très bien. En fait, le défi n'est vraiment pas au niveau des ventes. On n'a pas eu à se chercher de clients, même qu'on en a trop. On a trop de demandes pour la capacité qu'on a à fournir présentement. C'est vraiment là que réside notre défi. C'est au niveau de la production. Donc là, notre défi, c'est d'optimiser notre efficacité, notre production pour être capable de répondre à plus de demandes. Présentement, on vend en épicerie, on vend aussi à des restaurateurs de la région et on a des membres, donc des familles qui s'abonnent à la ferme, qui payent un abonnement en début d'année et qui leur donnent le droit de venir chercher des légumes à toutes les semaines ou aux deux semaines selon leur abonnement directement à la ferme. Donc, c'est un peu le principe des paniers bio qu'on voit souvent. Par contre, nous, on n'a pas de point de chute. Les gens viennent directement à la ferme chercher leurs légumes parce qu'on ne voulait pas imposer le choix de légumes. Les gens viennent plutôt et on organise un marché et ils choisissent leur item. Donc, ils viennent avec leur caisse en bois holistique et selon leur abonnement, s'ils ont payé pour un abonnement de 8 items ou s'ils ont payé pour un abonnement de 12 items, alors, ils prennent leur caisse et ils choisissent eux-mêmes leurs 8 items ou leurs 12 items qu'ils mettent dans leur caisse cette semaine-là. Donc, à ce moment-là, on leur donne une flexibilité de choix qu'il n'y a pas normalement avec les paniers bio.
Oui, c'est intéressant. Ça veut dire que les gens ne payent pas spécifiquement le prix de tel ou tel produit, mais plutôt un ensemble qu'ils composent eux-mêmes, alors.
Exactement.
Et alors, est-ce que vous faites ça dans le cadre de la grange?
Oui, tout à fait. Donc, on a une belle vieille grange qu'on a adaptée pour le marché et avec des tables, avec des rails, un peu style cafétéria. Donc, ils peuvent déposer leur caisse sur les rails et faire le tour du comptoir et mettre les légumes qu'ils désirent ramener à la maison dans leur caisse. Puis, ils n'ont pas besoin de faire la file ensuite pour passer à la caisse pour payer ou quoi que ce soit. Souvent, les gens vont plutôt rester pour jaser entre eux. Il y a une belle communauté qui se forme autour de ça. Je pense que les gens prennent plaisir à venir le jeudi à la ferme pour ramasser leurs légumes. Donc, c'est vraiment plaisant pour nous aussi.
Mm-hmm. Alors, sur votre site, qui est très intéressant, vous faites aussi référence au modèle de l'agriculture soutenue par la communauté. De quoi s'agit-il exactement?
Donc, c'est le concept que je vous décrivais plus tôt, c'est-à-dire les familles, les membres qui paient un abonnement en début d'année. Donc, ils vont vraiment payer d'avance les légumes qu'ils vont recevoir au courant de l'année. Donc, ça permet ça, c'est pour ça qu'on appelle ça l'agriculture soutenue par la communauté, c'est que la communauté avance l'argent au fermier, ce qui lui permet de faire les achats en début de saison pour démarrer la production. Et c'est un peu... c'est un partage, en fait, là, c'est vraiment intéressant pour le fermier. Donc, et puis ensuite, ben, toute la récolte est réservée et est livrée à ses membres qui ont payé leur abonnement.
Est-ce que c'est un modèle qui s'étend beaucoup au Canada, au Québec et ailleurs dans le monde, ou est-ce que c'est spécifique à une région?
Non, c'est quelque chose qui prend vraiment, on voit une belle croissance au niveau, on voit beaucoup de jeunes qui sont éduqués, qui sont allés à l'université et qui font un retour à la terre sous forme de petites fermes bio-intensives et qui utilisent le modèle d'agriculture soutenue par la communauté pour ce faire. C'est vraiment un mouvement qu'on voit, ça bouge rapidement, on en voit de plus en plus. Ouais.
Ça permet aux gens, autant aux personnes actives dans ce domaine qu'aux consommateurs, finalement, d'avoir un mode de vie plus sain aussi à long terme, hein?
Oui, tout à fait.
Donc, j'imagine que vous aviez fait une étude de faisabilité avant de lancer cette entreprise. Et ce qui m'interpelle, c'est qu'on voit quand même aujourd'hui beaucoup d'agriculteurs qui ont, eux, du mal à joindre les deux bouts. D'autres qui ferment ou qui se lancent dans l'agriculture intensive de blé ou de maïs. Donc, comment vous envisagez cette activité? Est-ce qu'à long terme, vous envisagez d'être totalement autosuffisant, ou bien c'est toujours pour vous, un second emploi ou un emploi parallèle, disons?
Bien, en fait, nous, on vise à démontrer justement qu'il y a d'autres modèles qui peuvent être très rentables au niveau de l'agriculture. C'est l'idée de l'agriculture bio-intensive, comme on le fait sur petite surface. L'idée est de maximiser vraiment la surface qu'on cultive et de la rendre le plus profitable possible. Et ça marche très bien. On a effectivement fait une étude de marché avant, on a une étude de faisabilité, on a un plan d'affaires assez étoffé. Et ça peut être en fait très rentable de cultiver de cette façon-là. Ça peut être même plus profitable au pied carré que faire de la monoculture comme le maïs ou le blé. Ça prendrait plusieurs petites fermes qui cultivent de cette façon-là, évidemment. Plus il y en a, mieux c'est. Mais pour le cultivateur, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment un modèle très, très intéressant pour nous. Moi, évidemment, j'adore aussi mon travail que je fais de jour. Donc, il n'y a pas nécessairement de plan à ce que ça devienne mon emploi ou que je travaille sur la ferme à temps plein éventuellement. En tout cas, pas à court terme. Mais c'est certain, et pour Antoine, ben c'est vraiment, c'est son emploi, c'est vraiment, pour lui, c'est sûr que l'objectif, c'est que ça lui fournisse un salaire qui fait du sens, et on n'aura pas de problème là, à le faire avec les résultats qu'on obtient aujourd'hui. Donc, c'est. Puis, devenir autosuffisant, ben, on l'est déjà. En fait, avec ce qu'on produit présentement, c'est facile. On fournit en légumes à l'année sans problème, là, ça, c'est certain.
Mm-hmm. Alors, j'ai oublié de vous demander si vous aviez du petit bétail ou de la volaille.
On a des poules pondeuses. Donc, on offre des œufs frais à nos clients, à nos membres. Sinon, on n'a pas de bétail, non. On est en fait végétarien, donc pour nous, on n'avait pas d'attrait, on ne voyait pas l'attrait à avoir du bétail. Mm-hmm. Mais puis les légumes, c'est déjà suffisamment de travail. On voulait se concentrer sur une chose, en tout cas, en partant.
Donc oui, je rappelle que vous avez une ferme dans la région de Sherbrooke.
Oui.
Holistique. Donc peut-être peut-on communiquer à nos auditeurs les informations, le site web, etc.
Oui, donc vous pouvez avoir plus d'informations sur le site web qui est le www.fermeholistique.com. Holistique s'écrivant Holistik. Et toutes les coordonnées, toutes les informations se retrouvent sur le site web.
Alors, peut-être pour terminer, ce qui serait intéressant, c'est de savoir s'il existe des réseaux d'agriculteurs qui, comme vous, ont fait ce choix d'une agriculture bio-intensive, que ce soit au niveau de la belle province ou du reste du Canada, ou même international. Est-ce que vous faites partie de réseaux comme ceux-là?
Il existe des réseaux. Présentement, nous, on ne fait pas partie. En fait, le plus gros réseau au Québec, puis je ne sais pas si ça s'étend à l'extérieur, c'est Équitaire. Évidemment, Équiterre, on initie le mouvement de fermiers de famille qu'ils appellent, et ce sont tous des fermiers qui sont dans l'agriculture, soutenus par la communauté, tous des petits maraîchers. C'est vraiment intéressant. Puis, sur leur site, on peut, les gens qui recherchent un fermier de famille peuvent trouver facilement. C'est un des plus beaux réseaux pour ça. Ouais.
Et peut-être pour terminer, quand on parle d'agriculture soutenue par la communauté, est-ce que ça veut dire aussi qu'à un moment donné du processus, vous êtes allé vers les élus locaux, que ce soit la mairie ou les députés de votre région ou autre, pour parler des besoins des agriculteurs dans ce domaine?
Pour l'instant, non, on n'a pas fait d'action de ce type-là, mais évidemment... plus qu'on s'ancre dans cette communauté-là, pour nous, c'est quand même nouveau. On a eu beaucoup de travail dans la première année pour la mise en place de l'entreprise puis pour démarrer. Mais de plus en plus, qu'on se sent confortable puis qu'on s'ancre dans cette communauté d'agriculteurs-là, c'est sûr que notre objectif va être de faire avancer la cause et que ça devienne de plus en plus intéressant pour les gens de suivre nos pas, parce que c'est sûr que de notre côté, étant les premiers aussi à cultiver de cette façon-là, l'hiver avec la géothermie, on a eu du défrichage à faire beaucoup. Ça a été beaucoup de négociations. Ça a été très difficile au niveau d'obtenir le financement et tout ça, parce qu'on était les premiers. Ça va être bien si on est capable d'ouvrir des portes pour les prochains.
Écoutez, on vous le souhaite, et puis merci pour d'avoir pris le temps de nous parler de cette expérience vraiment intéressante. Donc je rappelle que vous gérez une ferme d'agriculture biologique dans la région de Sherbrooke, holistique, et puis on aura sans doute, enfin j'espère, le plaisir de vous retrouver pour une interview plus concentrée sur les investissements responsables, qui fait aussi partie de votre expertise. Mais d'ici là, on vous souhaite beaucoup de succès, et j'invite nos auditeurs donc à regarder sur votre site internet les tenants et les aboutissants de votre expérience, et on a hâte d'en apprendre plus.
Merci beaucoup,
merci, au revoir Geneviève.
Au revoir.